maire, j'appelle de Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver ce matin dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs selon le calendrier réaménagé de la Commission électorale Nation indépendante publié le 4 avril dernier. Les élections des sénateurs se dérouleront le 22 avril 2024 et celles des gouverneurs et vice-gouverneurs le 29 avril 2024. À quelques semaines de ce scrutin direct, l'opinion congolaise émet des craintes sur la régularité et la transparence de ces élections au regard des pratiques de fraude ou de corruption ou encore de monnayage de voix qui entache les postes électoraux en RDC. Par ailleurs, en vue de garantir la crédibilité et la régularité des prochaines élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs, l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, APLC en sigle, prévoit de lancer ce mercredi 10 avril 2024 une ligne bleue pour dénoncer toutes les tentatives de corruption, de fraude lors des scrutins, de ces scrutins directs. Quels sont, selon vous, les mécanismes ou stratégies à mettre en place pour lutter contre les tentatives de fraude ou des monnayages ou encore des corruptions lors des élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs? Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Vous aussi, intervenir en direct en composant les 081-890-6030 ou les 081-890-4969. Paul Badianama est à la mise en nom de ce magazine. Abdelchindan a su la réalisation, la coordination au micro. C'est Marcel Ngomobala. À toutes et à tous, et sans condition d'écoute de ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081-890-6315 ou par internet pa@radiookapi.net.
Encore une fois, merci de votre fidélité à Radio Capi, la fréquence de la paix. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs. On va parler de ce calendrier réaménagé de la Commission électorale nationale indépendante, publié le 4 avril dernier, où les élections des sénateurs se dérouleront le 22 avril 2024 et celles des gouverneurs et vice-gouverneurs le 29 avril 2024. Mais comme vous le savez, les processus électoraux en RDC parfois entachés des irrégularités et parfois entachés de certaines pratiques qui n'honorent pas, c'est qui ne rendent pas crédibles de fois ces élections aux yeux de nombreux Congolais. Il y a des monnayages de voix, il y a même des tentatives également de corruption ou de fraude, et c'est que déplore bon nombre de Congolais. Et à ces sujets d'ailleurs, envie de garantir la crédibilité, la régularité des prochaines élections des sénateurs, gouverneurs, vice-gouverneurs, l'Agent de prévention des luttes contre la corruption, APLC en sigle, prévoit de lancer ce mercredi 10 avril 2024 une ligne bleue pour dénoncer toutes les tentatives de corruption ou de fraude lors de ces scrutins en direct. Alors, quels sont les mécanismes ou stratégies à mettre en place pour lutter contre toutes ces tentatives de fraude ou de corruption lors des élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs? Vous avez été nombreux et à réagir sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Nous vous disons merci. Vous êtes également inscrits, en tout cas pour certains, pour réagir en direct tout au long de ce magazine Parole aux auditeurs. Nous vous disons merci. Et voilà, pour commenter ce sujet, nous avons encore une fois le plaisir d'accueillir dans ces studios Maître Dieudonné Tshibwaboa. Bonjour Maître.
Bonjour Marcel et bonjour à tous les auditeurs de Radio Capital.
Voilà, merci d'avoir encore une fois nous avoir fait le plaisir de venir dans ce studio pour commenter ces sujets. Cette fois-ci, on va parler des élections, des sénateurs, des gouverneurs et vice-gouverneurs, tout ce qu'il y a comme tentative de fraude. Et je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Bruxelles en Belgique, Kinshasa et Kananga en RDC, et aussi président de la Fédération de la Diaspora Congolaise de la Belgique. Voilà, mettre en lice les élections de gouverneurs, vice-gouverneurs, également des sénateurs, c'est des suffrages en direct. Et si les électeurs sont les députés provinciaux, alors le processus, on le sait, en RDC, souvent il y a des pratiques qui sont décriées. Et voilà, pour le 22 avril prochain, il y aura l'élection des sénateurs, et puis le 29 avril, celle de gouverneur et vice-gouverneur. Est-ce que vous pensez qu'il y a des mécanismes qu'on peut mettre en place pour essayer, tant soit peu, de prévenir toutes les tentatives de fraude, de corruption en cours de monnayage de voix lors de ces scrutins directs?
Bon, Marcel, vous savez, c'est un peu déplorable de parler déjà de fraude avant même qu'il y ait élection. Donc, vous comprenez qu'il y a un souci quelque part. Nous sommes à notre quatrième cycle électoral. Et nous avons adopté d'avoir ce bicaméralisme, du moins pour avoir deux chambres législatives et avoir on a adopté que les gouverneurs et vice-gouverneurs soient élus par la Chambre, par les députés provinciaux. Dans un état de droit, un état respectueux des dispositions légales, on ne peut même pas commencer à parler de fraude avant même qu'il y ait élection. J'en veux pour preuve, il y a le mois passé, le ministre de la Justice, le ministre, a reçu donc les instructions du chef de l'État pour pouvoir mettre en garde tous ceux qui seront, qui sont des potentiels fraudeurs. Et là, dans son tour, saisir le procureur général auprès de la Cour de cassation à titre préventif. Pourquoi ? Parce que c'est comme une coutume dans notre pays qu'il doit avoir la corruption pour pouvoir obtenir une place au niveau de la deuxième chambre ou pouvoir être élu comme gouverneur.
Ou vice-gouverneur.
Vice-gouverneur, parce que c'est un ticket. Ce n'est pas normal. Un pays sérieux, un État qui se veut de droit, ce n'est pas sérieux. On doit se poser la question, est-ce que nous devons continuer avec ce système ? Et après quatre cycles électoraux, j'ai l'impression que la situation va de mal en pire. Et ce qui est encore plus déplorable, c'est qu'il y a même des prix qui sont fixés. Je prends d'abord le cas de du Sénat. Vous savez, généralement, il faut 3 ou 4 députés provinciaux dans une province pour pouvoir avoir prétendre à être élu comme sénateur. Mais comment vous expliquez qu'il y a même des prix fixés? Non, vous savez, il faut prévoir 50 000, 100 000 dollars, il faut prévoir des véhicules pour payer ces députés provinciaux. C'est honteux. Un pays normal ne peut pas, continuer de la sorte. Après 4 cycles, c'est honteux. Nous pensons qu'il faut peut-être réfléchir sur est-ce que ça vaut la peine de continuer avec ces élections, notamment au niveau des députés provinciaux. Est-ce que le Sénat a lieu d'être aujourd'hui? Quel est le rôle du Sénat? Ça, c'est ma réflexion. J'assume mes propos. Une deuxième chambre haute, oui. Nous sommes dans un système bicaméral. Il y a 2 chambres. Mais l'action qui est faite par le Sénat aujourd'hui est tenue par l'Assemblée. Et d'ailleurs, quand il y a une contradiction entre les deux, c'est la voix de l'Assemblée qui prévaut. Donc pour moi, le Sénat congolais n'a plus lieu d'être. Nous avons voulu copier un système occidental, mais c'est pas adapté à notre culture.
C'est l'application qui pose problème.
L'application aussi, l'utilité. Personnellement, je ne vois pas l'utilité du Sénat actuellement au Congo RDC. Ça, ce n'est que moi. Les avis sont partagés, mais moi, je ne pense pas que ça vaut la peine de continuer avec ce système du Sénat, de deuxième chambre. Maintenant, par rapport aux actes posés. Déjà, vous voulez être sénateur. Vous voulez être un législateur. Et vous-même, vous êtes dans l'acte de corruption. Vous êtes en train de corrompre pour avoir une place. Mais alors, c'est pour vous dire que quand vous serez sur place, vous ne ferez rien d'autre. Parce que si les fondements sont déjà mauvais, la suite ne pourra que suivre les fondements qui sont déjà ceux de la corruption.
Est-ce que, maître, c'est le Sénat qui pose problème ou le moyen d'y accéder qui pose problème le rôle que doit jouer le Sénat?
Je vais arriver.
Oui.
Le Sénat pose problème par le fait que, pour moi, son utilité actuellement au Congo n'a pas lieu d'être. On peut se limiter, pour moi, à l'Assemblée, simplement. Maintenant, les moyens pour y accéder aggravent la situation parce que les sénateurs corrompent. Alors que normalement, les députés provinciaux qui sont élus, après les indépendants, ils ont d'abord la liberté de choix, c'est la première chose, et aussi ils ont, ceux qui sont dans les partis politiques ou les regroupements, ils ont des mots d'ordre qui viennent de leurs dirigeants, bien leur structure, qui devaient suivre. Mais aujourd'hui, les députés provinciaux suivent plutôt, je dis la majorité, il y a des exceptions, suivre la voie de la monnaie, de l'argent, pour pouvoir élire. Ce n'est pas normal. Et ça, on appelle la corruption. Donc, vous devez payer un député provincial. C'est pas moi qui invente ça. C'est même la ministre de la Justice a reçu instruction du chef de l'État qui est garant du bon fonctionnement des institutions de l'État. Donc, si même le chef de l'État est alerte par rapport à ça, donc le mal est plus grave qu'on le pense. Et on le sait, c'est une pratique. La corruption, vous devez payer de l'argent pour être sénateur. Alors qu'il y a des personnes, si on prend le cas où on devait maintenir le Sénat, c'est qu'il y a des personnes qui sont valables, qui pouvaient être au Sénat et faire un travail correct. Mais parce qu'ils n'ont pas de moyens, simplement, ils ne peuvent pas y accéder. Donc pour moi, le Sénat, dans le format actuel, avec tout ce qui se passe, n'a pas lieu d'être. Sauf y réfléchir différemment.
Et concernant donc, les gouverneurs...
Maintenant, je vais dans le gouverneur. Oui. Ça, c'est encore pire. Parce que les montants sont encore plus élevés. Et là, je veux même sur la réflexion, devons-nous maintenir le système de vote du gouverneur au suffrage indirect? C'est ça. Pour moi, il faudrait réviser la Constitution. Si on doit maintenir les députés provinciaux, alors donner peut-être d'autres prérogatives, mais que le gouverneur soit élu, soit plutôt nommé par le chef de l'État, pour atteindre un objectif, et il y aura peut-être des systèmes de contrôle pour voir s'il atteint ses objectifs ou pas. Voilà. Le président Mobutu a fait ça pendant plusieurs années, bon, ça marche.
Mais il est séquestrable que ce sera un recul qu'ils soient encore nommés quand on parle du passé.
Ça fait 20 ans qu'on est dans ce cycle de gouverneurs qui sont désignés par leurs députés provinciaux. Quelle a été la situation? Faisons un monitoring. C'est catastrophique. Déjà, moi, personnellement, je déplore le fait que le gouverneur soit de la province dans laquelle il veut être élu. Pour moi, je pense qu'il faut que ça change. Revenir à l'ancienne situation pour la cohésion nationale. Que le gouverneur ne soit pas membre, soit pas des originaires de cette province. Je défends cette cause-là. Mais aussi qu'on laisse cette prérogative au chef de l'État de pouvoir désigner les gouverneurs, selon lui. Vous allez voir, ça va aider déjà à réduire cette histoire de corruption. Parce que les gouverneurs qui sont élus par les députés provinciaux sont des otages. À tout moment, il y a des motions qui sortent pour menacer le gouverneur parce qu'il faut encore ouvrir le portefeuille et payer. Et ça, c'est le secret de Polichinelle. Tout le monde le connaît. C'est la pratique. Le gouverneur souffre. Regardez de la dernière législature. Combien de gouverneurs ont tenu sous la législature? Je crois pratiquement plus de la moitié des provinces ont eu à changer de gouverneur. Parce qu'il y a un député provincial qui est d'une tendance politique, ou bien d'un adversaire politique, a été soudoyé. Celui qui est plus fort, qui a plus d'argent, qui auront la majorité des députés, on vous défenestre, à tort ou à raison. Ce n'est pas normal et ce n'est pas sérieux. C'est dans un pays qui... Est-ce que nous devons continuer avec ce système? Arrêtons de copier parce qu'on nous amène un système par les Occidentaux. On copie à l'aveuglement et on voit les conséquences.
Donc, merci, je comprends bien. Si je comprends bien, vous, en tout cas, encouragez cette initiative de l'APLC de mettre une ligne bleue.
C'est une agence spécialisée de la présidence de la République qui est là pour lutter contre la corruption. Pour vous dire que tellement que c'est fait, cela touche tellement le chef de l'État que même cette agence spécialisée s'y implique parce qu'ils ont un objectif. Oui, ils ont mis une ligne bleue pour. Mais maintenant, comment vous allez prouver la corruption? C'est ça le problème. Vous allez appeler l'APLC. Mais comment prouver que telle personne a
investi de l'argent? Justement, dans nos prochaines émissions, en tout cas, certainement, peut-être la semaine prochaine, d'ici la fin de la semaine, si tout marche bien, on verra comment avoir entre les responsables de cette agence pour nous expliquer comment ça va fonctionner. Aussitôt que ça sera lancé à
ce moment-là. Pour moi, ça serait très compliqué. Comment prouver que j'ai reçu de l'argent?
Vous comprenez? Voilà. Maître, on revient à vous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix. C'est votre magazine d'échange citoyen. Parole aux auditeurs. Nous parlons des élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs qui vont se dérouler au courant de ce mois d'avril 2024 et surtout comment faire pour prévenir ou lutter contre toute tentative de corruption, de fraude ou de monnayage de voix lors de ces scrutins directs. Si vous voulez intervenir, le numéro d'appel c'est les 081-890-6330 ou les 081-890-4969. Et pour en parler, nous avons dans ces studios Maître Dieudonné Tshibobwa, avocat au barreau de Bruxelles en Belgique, de Kinshasa et Kananga, RDC, président de la Fédération de la diaspora congolaise de la Belgique.
Parole aux auditeurs.
Peter Maboudi est en ligne depuis Kinshasa, éminent Mwanda depuis Bukavu, Pati Maïmba, Bandundoville, Franck, qui nous appelle également de Vienne en Autriche, à Mons, Bissi, moi qui est à Bukavu. On y va avec Peter Maboudi, qui est ici à Kinshasa. Bonjour Peter Maboudi.
Bonjour Marcel, bonjour à l'invité Maître Dieudonné Tshibobwa et tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute, vous avez la parole.
Oui, merci Monsieur Marcel pour m'avoir associé. La question liée à la corruption dans notre pays, vraiment c'est une question épineuse qui nécessite plusieurs réflexions. Mais en ce qui concerne les élections à venir, d'ailleurs qu'il y ait un système déjà en cours, parce que nous venons de passer les élections de 2022. Et décembre 2023, Monsieur Marcel, le constat est des mœurs toujours à mœurs parce que c'est le système politique que nous avons dans notre pays qui est vraiment acteur de plusieurs maux qui rongent la société congolaise. Le processus électoral est encadré par les acteurs. Le premier acteur du processus électoral, c'est d'abord les acteurs politiques. Et nous avons tous, nous connaissons très bien que dans notre pays, plus ce sont des regroupements politiques et des partis politiques qui compétissent au poste ou tel poste. Mais à ce qui concerne même la question de corruption, de fraude, ce sont des questions qui sont stratégiquement organisées au sein des regroupements et partis politiques pour conquérir le pouvoir. Et cela se passe sous des aspects. Pour les élections à venir, il y a des aspects de corruption. Il y a la corruption d'une part morale et financière qui sont proposées aux candidats, aux électeurs, grands électeurs, moyennant l'argent par les plateformes et regroupements politiques. Ça, c'est la première forme de corruption. La deuxième forme de corruption, c'est lié au mot d'ordre des partis politiques, des autorités morales des partis politiques. Donc, je crois qu'il est difficile aujourd'hui d'opérer un bon choix si et seulement si le système politique que nous avons dans notre pays demeure ainsi. Je crois que pour mettre fin à cette histoire, par rapport aux élections à venir, il est de bon droit que les élus provinciaux, qui sont d'abord eux-mêmes élus et qui sont grands électeurs, doivent miser dans leur sagesse, sauver d'abord leur éthique morale. Parce que la question de corruption, tout ça, c'est... ça relève aussi d'une question d'éthique individuelle d'abord, avant que cela soit un problème collectif. Donc, c'est question d'abord de l'individu élu député. Quand on est député, on est élu, on est honorable, on doit préserver ses droits-là, ses qualités ou la qualité d'être appelé honorable. L'honorabilité n'est pas liée à ce qu'on doit faire.
Mais justement, Peter Maboudi, justement, si l'homme congolais a tellement... cette pratique est tellement racinée dans le quotidien de l'homme politique congolais. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour contraindre l'homme congolais à changer, notamment pour avoir des élections crédibles, hein, pour le cas notamment de scrutin indirect de sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Oui, merci Monsieur Marcel. Notre invité, il est avocat. Il maîtrise bien les notions du droit. C'est le droit qui élève une nation. On ne peut jamais parler d'un état de droit si les juridictions compétentes qui sont habilitées à juger les inculpés ne sont pas à la hauteur. C'est comme nous avons connu l'année passée avec les dénonciations de la CENI, détention des DEF, détention, la corruption, le fraude. Mais quel est le sort de tous les candidats qui ont été invalidés par la CENI? Aujourd'hui, ils sont libres. Et certains sont d'ailleurs encore candidats aux élections sénatoriales et puis gouverneurs. Et qu'est-ce qu'on doit attendre là-dessus? Si d'ailleurs il y a eu des dénonciations d'une institution qui est organisatrice des élections et la justice ne s'est pas saisie. Et heureusement que le chef de l'État lui-même a reconnu que notre justice est malade. S'il n'y a pas la justice dans ce genre de situation, je crois que nous n'aurons pas à mettre fin à ce genre de situations au sein du pays. Et également aussi, je salue aussi l'initiative de la structure en question parce que la clameur publique aussi fait partie d'une pression qui doit vraiment condamner ce genre d'actes pour que nous puissions arriver à mettre fin.
Voilà, sinon, merci.
Avec les systèmes politiques que nous avons, les autorités morales, tous les députés provinciaux, j'ai terminé par là, ils ont été convoqués ici à Kinshasa, notamment nos députés du Kasaï, de plusieurs provinces, ils étaient ici à Kinshasa. Pour faire quoi? C'est pour suivre les mots d'ordre.
Le mot d'ordre, voilà, merci. Merci Peter Maboudi. Merci Peter Maboudi, vous l'avez dit, c'est une question d'abord de probité morale, c'est pas facile pour l'homme politique congolais. Merci d'avoir réagi depuis Kinshasa. Emina Mwanda, vous êtes à Bukavu. Bonjour Emina.
Bonjour Monsieur Marcel, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi, bonjour à l'invité. Quel que soit le mécanisme utilisé pour dénoncer les fraudes de corruption tentatives de ces deux comportements antivaleurs d'un pays démocratique, rien de bon ne proviendra de l'actuelle centrale électorale qui a montré sa mission à accomplir lors des élections générales de décembre dernier. Dénoncer, c'est une chose, monsieur Marcel, et poursuivre jusqu'à finir les dénonciations en est une autre. Tout a été préétabli en amont par la CENI, partie et jugée à la fois. Le prétendant grand électeur je cite les députés provinciaux, n'espérant que la complémentarité, sachant que la note était déjà dite le 20 décembre. L'initiative prise est bonne, mais elle a moindre chance d'aboutir à ses objectifs. Et nous redoutons aussi qu'elle ne soit pas venue de l'actuel régime qui fait tout pour reprendre la volonté du peuple. Car le questionnement suivant pourrait découler de cette initiative, monsieur Marcel. Pourquoi c'est maintenant que la structure en question lance-t-elle sa ligne bleue sur qui?
Mais justement, éminent, par rapport à cette structure, je l'ai dit, nous verrons comment faire parler, en tout cas, un des responsables de l'agence de prévention de lutte contre la corruption, APLC. Peut-être dans les jours à venir, ça va marcher. C'est à ce moment-là, on pourra savoir, une fois que cette ligne bleue sera lancée, en principe, selon le communiqué de cette agence, ça sera ce mercredi 2024. Une fois que ça sera lancé, on verra comment revenir sur ces sujets. Merci, Emina Mwanda, d'avoir appelé depuis Bukavu. Pati Maïma, vous êtes à Bandundoville, j'imagine. Bonjour, Pati Maïma.
Bonjour, cher journaliste et notre invité qui est au plateau avec vous. Bon, il y a des notions autres dans notre pays que nous devons quand même avoir honte. Il y a une certaine niveau de vie que nous devons quand même avoir honte, nous Congolais. La corruption, cette notion-là de la corruption, ça doit quand même nous accompagner et puis contaminer même nos progénitures qui viennent après nous. Donc vous êtes là, honorable gouverneur, honorable député, honorable qui sais-je encore, mais vous êtes arrivé là par corruption. Et puis on trouve ça normal. Ça fait la honte. Bon, moi, je trouve qu'on ne peut pas passer beaucoup de temps. Les camarades qui m'ont procédé ont déjà parlé, mais moi, j'ajoute seulement, il faut que la justice soit une justice au sens propre du mot. Au sens propre du mot. Comment expliquer que nous avons une justice? Les gens sont là. Les gens sont là en train de corrompre. Les députés provinciaux, ils sont là des bourreaux. Ils sont là des bourreaux. Ils ont déjà trouvé les diamants, comme les Chinois disent, copres. Quand les gouvernements vont venir, ils vont faire les copes, ils vont avoir l'argent. Et puis, l'État connaît même ça. L'État connaît ça, la justice connaît. On a collé les députés, c'est avec des machines à voter. Jusqu'aujourd'hui, la justice ne sait rien prononcer. Et puis, curieusement, ces gens-là, ils sont encore à la course. On doit avoir même la honte d'être appelé honorable, mais tu es arrivé là par corruption. Je ne sais pas si vous m'écoutez, je n'ai pas un bon retour ici, mais je suis en train de demander
non,
à
vous
Dieu
écoute,
que je sois au moins écouté, que je ne prêche pas dans le désert.
Vous demandez à Dieu que vous soyez écouté. Non, vous êtes, non, on vous écoute, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de demander à Dieu, on vous écoute sans problème, on vous écoute.
Ah d'accord. Donc, que l'État se lève d'abord, parce que si nous pouvons décrier, il y a corruption, les députés sont des bourreaux, ils attendent les candidats gouverneurs pour les cautionner, mais... C'est comme l'eau qui est jetée sur les dos d'un canard. Nous, on n'a pas, nous n'avons pas le droit d'arrêter ces gens-là. C'est la justice. Donc, nous comprenons que on a une justice d'abord qui est comme dans... Bon, on ne sait pas quel terme, hein, mais du moins, on n'a pas la justice. Parce que si réellement on avait la justice, hein, on devait arrêter ces gens. On devait commencer par un modèle. Le premier tricheur qu'on a aujourd'hui au Parlement, en commençant du haut jusqu'en bas, ces gens-là devraient d'abord être arrêtés. Il n'y avait pas de dénonciation comme les camarades de là qui m'a présenté, il a dit qu'il y a eu des dénonciations. Non, il y avait des preuves. Il n'y avait pas de dénonciation. Il y a eu des preuves, mais la justice, c'est elle d'abord qui favorise. Parce que moi, j'ai toujours dit, il faut arriver d'abord à être juge sur la voie normale. Là, vous n'aurez peur de personne. Mais quand vous passez d'abord par des mafias, ce sont les politiques qui vous mettent là. Donc vous êtes là comme un poste téléviseur. Les politiques sont comme une télécommande. Ils appuient là où ils appuient et vous exécutez.
Merci, bon, merci. Hein, voilà, merci. Merci, Pati Maïma, d'avoir appelé depuis Bandundoville. Franck, vous êtes à Vienne, en Autriche. Bonjour, Franck.
Bonjour à vous tous au studio, mon cher Marcel. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi et aussi à l'invité du jour, maître avocat Dieudonné Tshibouaboua.
On vous écoute, Franck.
Oui, merci beaucoup. Je crois que Peter et les autres compatriotes ont déjà placé les mots les plus essentiels. Parce que si c'est la même CENI non restructurée qui organise ces élections sénatoriales des gouverneurs et de leurs vices, avec les acteurs de la mentalité que nous connaissons et des tendances politiciennes dont nous avons déjà des idées. Je me demande, est-ce qu'on peut encore s'étonner d'apprendre qu'il y a déjà des élans et des attitudes de corruption qui planent là-dessus, à moins qu'on nous contraigne de nous abstenir pour comprendre ce qui se fait selon nos modus operandi et vivendi. Et la plupart des observateurs avertis savent comment ça se fait chez nous, et cela se passe toujours ainsi. Et je me pose maintenant la question sur l'efficacité de toutes ces structures de lutte contre la corruption. Si déjà le peuple lui-même a été dans l'impossibilité d'empêcher de plein des irrégularités massives manifestes lors des élections organisées en 2023, comment lui serait-il cette fois-ci possible d'éviter des élans de fraude qui se préparent seulement au niveau des combines de ces grands électeurs que sont nos députés provinciaux que nous devons respecter pour cette compétition sénatoriale et de gouvernement? Je crois personnellement, pour ne pas toujours afficher du pessimisme, on doit souhaiter bonne chance par rapport à ce qui s'est fait. Mais comme le maître Dieudonné venait de se poser autant de questions, ça s'est fait pour quoi, en vue de quoi et pour qui? Parce que si les élections se préparent pour organiser l'avenir du peuple, ça doit se préparer en tenant compte des desiderata de ces peuples-là. Mais maintenant, si on fait semblant d'organiser les élections pour ces peuples qu'on est en train de saboter, qu'on est en train d'exploiter, je me demande s'il faut encore parler des élections ou s'il faut parler des simulacres d'élections ou s'il faut parler de quoi que ce soit. Parce que en 2023, par exemple, il y a eu autant de preuves, il y a eu autant de contre-témoignages, mais je me demande si jusqu'ici, la CENI comme pouvoir organisateur des élections a ne fût-ce qu'été interpellé pour se justifier sur la saisie de certaines machines de vote auprès de certains candidats. Mais mon ami Marcel, avec tout ce qu'on venait de voir, on n'a interpellé personne au niveau de la CENI. On a fait semblant de sanctionner tel. Il y a des jugements ici et là. Mais on a pris quelles dispositions adéquates, quelles dispositions responsables pour améliorer la qualité des élections qui doivent se tenir maintenant? Je crois que moi, je préfère poser des questions. C'est à l'opinion de voir si vraiment on est sur les bons chemins ou pas.
Que vous pensez également, Maître Dieudonné Tshibobwa est revenu là-dessus également, il y a ceux qui estiment que, en tout cas, le Sénat, en tout cas, c'est une institution simplement budgétivore qui ne sert à rien, en tout cas pour l'instant. Il y a également les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs qui on devait plutôt rentrer en ancien système de nomination plutôt que qu'il y ait ces votes, ces scrutins directs de gouverneurs et vice-gouverneurs.
Oui, mais la question a déjà été posée. Je crois qu'on ne se la pose pas pour la première fois. La question a déjà été posée pour savoir c'est quoi l'efficacité de toutes ces structures. Mais personnellement, je n'aimerais pas trop m'attarder sur cet aspect, mais j'aimerais peut-être aller de l'autre côté quand lui suggère que le président de la République nomme les gouverneurs comme ça se faisait à l'ancien temps. Là, je crois, je peux le comprendre. Je le comprends comme juriste, je le comprends comme citoyen congolais. Mais personnellement, si je dois voir comment ça s'est fait avec l'actuelle gouvernance, avec l'actuel système en place, même ce qu'il suggère là, que de laisser au président de la République de nommer seul le gouverneur, on risquerait, mon cher compatriote Maître Dieudonné Tshibobwa, de nous retrouver au même niveau, parce que on peut aussi éviter qu'on se retrouve avec 24 gouverneurs sur les 26, les 24 proviennent de la même souche. Parce que là, nous avons déjà des preuves. Nous avons des preuves au niveau de la magistrature. Nous avons des preuves partout comment ça s'est fait. Et maintenant, ce que nous devons retenir, il y a de la méfiance qui s'installe partout. Donc, je ne sais même pas si les peuples congolais, un peuple, des peuples de Congolais conscients, s'ils peuvent encore faire confiance à nos hommes politiques. Et au lieu de nous bourrer les oreilles avec la pléthore des agences de lutte contre la corruption, moi, je crois que les peuples congolais lui-même devait se saisir de certains mécanismes constitutionnels, de certains articles, pour chercher à se remettre dans ses droits. Parce que moi, ça m'étonne de voir, c'est le même peuple qu'on exploite, c'est le même peuple qui est chosifié, et c'est le même peuple qui se met encore à la solde de ses bourreaux. Et parfois, je me demande si le peuple congolais de la basse classe comprend le sens de son avenir. Et nous autres, au niveau de vos ordres, on est en train de nous exprimer, d'éclairer, de réveiller des consciences, mais quelquefois, on se demande vraiment si les gens nous comprennent ou peut-être nos raisonnements sont soit inutiles, soit pertinents. Je ne sais pas, je ne vois pas l'avenir de ces pays avec une telle mentalité. Donc, le problème chez moi, l'homme congolais doit se remettre en question. Il doit vraiment revenir au fond de lui-même. Il doit se poser autant de questions s'il est vraiment content de se retrouver heureux tout seul au niveau de sa famille et voir la majorité des Congolais.
Merci.
On nous dit qu'on va organiser les élections. Mais on les organise pourquoi? Parce que le peuple pour lequel on veut les organiser ne va pas se retrouver soit à travers les choix de ses dirigeants, soit à travers les résultats de ces élections. Alors, à quoi servent toutes ces élections?
Voilà, merci Franck d'avoir réagi depuis Vienne en Autriche. On revient au pays pour accorder la parole à Amos Obisimo qui nous appelle depuis Bukavu dans le sud Kivu. Bonjour Amos.
Guy, bonjour à tous les auditrices et auditeurs de la radio Okapi. Bonjour à l'invité.
On vous écoute Amos, c'est Marcel qui a l'antenne.
Merci bien. Au fait, partant de l'expérience que nous avons depuis que nous organisons les élections dans notre pays, toutes les corruptions qui ont toujours été dénoncées, surtout ces élections du 20 décembre qui ont fait la honte de la République, moi je doute que avec les élections de gouverneurs et sénateurs, il y aura un changement. Vraiment, je doute. Comme mes prédécesseurs ont eu à dire, la justice élève la nation. Malheureusement, chez nous, la justice elle-même, je ne veux même pas dire serrée, elle est corrompue. Et quand la justice est corrompue dans un État, on ne peut s'attendre à quelque chose. Elle accepte de se faire manipuler par les politiques et par la suite, c'est le peuple que nous sommes qui a pâti. Parce qu'on ne comprend absolument rien aujourd'hui par rapport à ces élections. On commence à dire qu'il y a certains députés qui sont en train d'exiger 40 000 dollars, 60 000, 80 000 dollars pour voter le gouverneur. Pour ce qui est des sénateurs, on nous parle de 30 000, on nous parle de 50 000 dollars. Et tout le monde sait les conséquences de cette pratique. Un gouverneur qui a été élu, par exemple, et qui a dépensé une affaire de 2 millions de dollars pour se faire élire, une fois à la tête de la province, il va d'abord tout faire pour récupérer son argent perdu. Et d'ailleurs, tout faire pour bénéficier davantage. S'il a dépensé 2 millions de dollars, pourquoi ne pas vouloir avoir 5 millions? Comment on peut s'attendre au développement de cette province avec des dirigeants ici de corruption? C'est anormal. C'est anormal.
Donc, moi, je pense, et c'est là que... Amos... Il faut continuer à, en tout cas, à dénoncer. C'est vrai que on n'arrête pas de le dire, on n'arrête pas de le répéter. C'est pas facile avec l'homme politique congolais. Il y a ceux qui vous ont précédé qui ont dit que le problème avec l'homme politique congolais, c'est manque de probité, surtout d'abord morale. Et avec ces pratiques, il n'est pas évident que on puisse vraiment changer les choses. Mais il faut continuer à dénoncer et il faut continuer.
Justement, nous devons continuer à dénoncer. Il y a certains de mes prédécesseurs qui ont parlé de la probité morale. Je veux bien, mais en constatant ce qui se passe dans notre pays, peut-on alors conclure qu'il n'y a aucune personne qui aurait la probité morale en RDC, en commençant par la présidence jusqu'au niveau des chefs d'avenir? Parce que la manière dont le pays est actuellement géré, l'image qu'affiche le pays dans tous les domaines de la vie, moi, je ne pense pas qu'on peut évoquer la question de la probité morale. Ce qu'il nous faut, tant que nous n'aurons pas de dirigeants capables d'instaurer une bonne et vraie justice au pays, qui ne sera pas manipulable par les mêmes hommes politiques au nom de leurs intérêts égoïstes, rien ne changera dans ce pays. C'est pourquoi beaucoup déjà, je suis d'accord avec Franck, sont en train de dire que les élections ne sont plus une panacée pour la République. Il faut que les Congolais réfléchissent. Une autre alternative, notre constitution nous donne beaucoup de moyens d'y arriver pour qu'on parvienne à sauver le pays actuellement en danger.
Voilà, merci.
À chaque moment, Il y a des discours qu'on cesse de nous de prononcer.
Merci.
Non, je veux faire ceci.
Merci à Amos. Merci Amos d'avoir appelé à Depuis Bukavu. Avant d'accorder la parole à notre invité, Maître Dieudonné Tshibombo, je m'en vais lire cette réaction sur la page Facebook par nos auditeurs. C'est celle de Jean-Samuel Médé. Le système électoral RD congolais laisse trop à désirer, surtout les cas des élections indirectes pour un pays dont la corruption a dépassé les seuils. Pour ce faire, les constitutionnalistes, les juristes, les conseils supérieurs de la magistrature, entendez par là, doivent nous aider pour cette question. Le Sénat RDC ne sert à aucune fin, car c'est le même travail que fait l'Assemblée nationale. Dès lors que les élections des gouverneurs sont indirectes, elles seront toujours entachées de corruption et les gouverneurs qui entreront en fonction seront voués à la récupération des frais de leur campagne, d'où les provinces ne sont presque pas servies en remède. Il faut que désormais les gouverneurs soient nommés par le président de la République. Voilà, c'était Jean-Samuel Mendé qui a réagi sur la page Facebook par aux auditeurs. En tout cas, il y a beaucoup de directions par rapport à ce sujet. Maître Dieudonné Tshibombo, vous avez suivi autant de réactions des uns des autres. Il y a ceux qui estiment que le système est tellement corrompu qu'il n'y a plus rien à faire. Il faut absolument voir comment repenser le système politique congolais, surtout à l'ordre politique congolais. Mais il y a ceux qui estiment quand même, comme c'est le cas de Jean-Samuel Mbendé, qui en tout cas il faut nommer, que les gouverneurs et vice-gouverneurs soient désormais nommés par les présidents de la République, c'est que Franck ne devient n'abonde pas totalement dans le même sens.
Vous savez, moi j'ai posé donc ce que je pense être le bon choix selon moi, notamment sur le Sénat, s'il faut la maintenir, et aussi sur l'élection d'un gouverneur ou pas. Si ça n'a pas été une désignation, ça c'est juste une des propositions, mais que j'assume parce que j'ai réfléchi dessus. Maintenant, je veux relever un point. Vous savez qu'en Afrique, nous ne sommes pas l'unique pays qui a des grands électeurs. Juste en Angola, ici, c'est un système de grands électeurs. Mais pourquoi on n'entend pas tous ces gens de bêtises? Parce que chez nous, la corruption est endémique à tous les niveaux. La corruption est devenue un mode de vie normal. Le problème, c'est que quand des actes de corruption sont posés, ceux qui doivent les sanctionner ne le font pas. Je ne veux pas vous apprendre ici. J'ai déjà fait une étude. J'ai même écrit sur la réforme de la justice congolaise. Je suis fils d'un ancien ministre de la justice, vous le savez. Et la justice a toujours été ma passion. J'ai déjà réfléchi. J'ai tout un processus que j'ai mis en place. Comment réformer la justice à tous les niveaux. Nous devons voir du bon côté, c'est-à-dire au-delà des mots que nous sommes en train de relever, au-delà des constats, ne restons pas dans le pessimisme. Je pense qu'il est important pour nous, pour l'intérêt du pays, d'apporter des solutions. Il n'y a aucune piste qui doit être négligée. C'est ainsi que je dis que nous devons réfléchir. Est-ce que notre mode de fonctionnement actuel, ça vaut la peine de continuer? Parce que nous relevons que depuis plus de 20 ans, la situation ne fait que s'empirer. Il ne faut pas tomber dans l'inanition de la nation. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous étouffer la nation parce que vous avez des principes qui sont figés. Quand ça ne va pas, on change. Nous sommes dans une société humaine qui n'est pas parfaite. Il faut adapter les choses en fonction de notre situation. La Constitution de 2006, vous savez, d'où elle vient. Il y a des points positifs. Il y a des points négatifs qu'on peut réaménager. On n'est pas obligé de rester sur une situation qui ne va pas, parce que tout le monde le relève. En ce qui concerne les élections sénatoriales, quatrième cycle, même s'il y en a un cycle qu'on a vu pratiquement sauter, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui se préparent déjà financièrement, parce qu'ils savent que non, moi je passerai au Sénat, avec mes 150 000 dollars, je vais corrompre, payer chaque député. Est-ce que vous imaginez? Donc celui-là a déjà fait une corruption anticipative, qui sait qui va passer. Et c'est honteux. Désolé de dire qu'il y a des personnes que je ne peux pas appeler honorables. Ce sont des déshonorables. Parce qu'il y a des fonctions qui sont dignes. Vous savez, un Sénat, si je devais défendre le Sénat, on appelle ça une chambre de la sagesse. Une haute chambre. Ce sont des personnalités importantes qui sont là, qui sont respectables. Mais si même vous êtes acteur de la corruption, vous n'êtes pas digne d'être honorable. Maintenant, je veux relever un autre point, celui d'un gouverneur. Le dernier intervenant a dit tout à l'heure, lorsqu'une personne a dépensé 2 millions de dollars pour corrompre les députés provinciaux, pour qu'il accède, qu'il devienne gouverneur, La première chose, c'est d'abord essayer de remettre l'argent qu'il a sorti de sa poche. C'est-à-dire qu'il va d'abord s'occuper de lui-même au lieu de s'occuper d'une ville. Je ne veux pas viser qui que ce soit, mais nous voyons ce qui se passe dans certaines villes et certaines provinces. On voit que c'est catastrophique. Parce que d'abord, il doit combler le vide.
Oui.
Au-delà de ça, la personne n'a même pas le temps même de travailler correctement pour la province et la ville parce qu'il est toujours sous menace constante. Parce que les députés provinciaux, quand ils ont besoin d'argent, ils le menacent, ils font ça, ils font... C'est ainsi que des fois, les gouverneurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils se ménagent lui-même, ses députés provinciaux, ils constituent un mouvement politique où il va se l'accaparer, où il sait que non, il peut reposer sur ses députés, il va les privilégier. Parce qu'il veut pas être ballotté à tout moment. C'est honteux. Ce qui se passe au Congo, j'ai toujours dit que nous sommes un pays atypique. Si on doit écrire l'histoire du Congo, on doit l'enseigner ailleurs pour un pays à part. Et maintenant, le problème est où? Quand nous relevons tous ces faits, qu'est-ce qui se passe? C'est là où je vais chuter, comme les Congolais, nous aimons le dire, chuter, ou bien atterrir,
oui.
Sur le point de la justice. Quand vous apprenez qu'il y a de tels faits, il y a des fois même qu'il y a des preuves, mais il faut sanctionner. La loi est là. Si vous regardez les articles 147 à 150 du Code pénal, il y a des sanctions prévues en cas d'acte de corruption. Mais si vous allez devant les juges, ceux qui doivent appliquer la loi, les sanctionner, si eux-mêmes sont aussi participants à cette corruption parce que vous devez payer, voilà, on tourne en rond parce que vous, il y a des gens qui deviennent aujourd'hui intouchables parce qu'ils savent qu'avec son argent, non seulement il peut corrompre pour occuper une place, mais aussi il va corrompre, il va payer les juges pour qu'ils puissent être maintenus. Donc, c'est un système qui tourne en rond. C'est ainsi que le chef de l'État...
C'est vraiment ça.
Vous savez, moi, j'ai lu... Parce que moi, je suis passionné de la justice. Je me dis que je suis avocat. Défendre les gens, défendre les causes nobles. Je suis contre l'injustice. C'est pour ça que j'ai réfléchi. C'est pas d'aujourd'hui. Vous savez, j'ai fait plusieurs séminaires ici, plusieurs forums. Comment réformer notre justice? Le chef de l'État, a plus de 5 fois, j'ai suivi ses discours, il s'est plaint. Dernièrement, il a dit, notre justice est malade. Elle est réellement malade. Selon la justice, s'il y avait une justice qui pouvait appliquer la loi, sanctionner les auteurs, une vraie sanction, vous allez voir que les choses peuvent commencer à changer.
De mettre en point, revenir par rapport à ça, sur la réforme de la justice, ça sera un sujet qui va permettre en tout cas de faire l'objet d'un échange avec les auditeurs. Il y a beaucoup, beaucoup d'auditeurs qui aimeraient intervenir. En tout cas, on va leur accorder 1 minute à chacun. Ils sont 6, j'imagine, en tout cas, ils sont nombreux. Alors, j'y vais avec Maître Patrick Odia qui appelle depuis le Lubumbashi. Bonjour, Maître Patrick. Maître Patrick Odia, vous êtes à Lubumbashi. Apparemment, il y a quelques soucis avec la ligne de Maître Patrick. Alors, on y va du côté de Kisangani avec Marie-Paul Awa. Bonjour, Marie-Paul.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Kabi.
Bah, vous avez 1 minute, Marie-Paul. Qu'est-ce que vous avez à ajouter par rapport à ce qu'on dit, ceux qui vous ont précédé?
Merci beaucoup. J'ai fait les miennes et les arguments soulevés par les uns et les autres, voire votre invité. Et je dirais en plus que la lutte contre la tentative de corruption reste parmi les mécanismes de la gouvernance dans un État, ou un État qui se veut bien évidemment un État des droits. Et d'ailleurs, c'est la palissade même de la Constitution ainsi que d'autres lois. Alors, vous savez, la CENI, c'est un organe d'appui à la démocratie. Et de tout ce qui s'est fait, de tout ce qui s'est dit ici, ça jette quand même un discrédit sur cet organe-là. Et du coup, on est dans un organe qui n'est pas vraiment à la hauteur de ce qu'il devrait faire. Voilà pourquoi, à mon sens, je trouve que la sensibilisation sur les valeurs républicaines et aussi sur le sens des élections dans un pays tel que notre pays, la RDC, et un pays à système démocratique, et doit être à tout moment fait. Donc, nous disons, on ne peut pas se décourager. Nous devons toujours sensibiliser les gens dans ce sens-là, en fait que nous puissions avoir quand même une république où les choses se font de manière à permettre la gouverner. Parce que tout ce que nous décrions ici, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas la gouvernance. La CENI n'applique pas les normes qui sont censées organiser les élections. Et on prend des raccourcis et tous ces raccourcis nous versent dans tout ce que nous décrions. Et en fait, si nous sommes toujours dans ces jets dans les cycles infernales, des contestations ou de remises en question, je crois que nous n'allons pas avancer. Et voilà pourquoi, nous devons appliquer les normes. Et si on applique les normes, on va traquer tous ceux-là qui vont se mixer dans spécialisés dans la corruption, ainsi de suite.
Voilà, merci Marie-Paul Awa, depuis Kisangani pour vous. Le problème, c'est respecter, quand vous parlez des normes, c'est-à-dire que respecter les lois du pays. Merci Marie-Paul depuis Kisangani. Docteur Michael Bolingo, vous êtes à Goma. Bonjour Docteur Michael. Docteur Michael Bolingo, vous êtes en ligne depuis Goma.
Nous sommes en ligne. Bonjour très cher Radio Capi. J'ai suivi l'intervention de précédent par rapport à ce qui a été dit. Mais moi, je me réfère d'abord de différentes causes.
Oui.
Vraiment, nous devons accepter que tout part du départ. Il faudrait d'abord, à ce qui concerne la CENI, elle-même n'est pas pire. Il faut qu'on se le dise la vérité, parce que quand on se réfère des élections passées, on trouve qu'il y a vraiment la CENI est un peu politisée par rapport à ça. Il est difficile pour ces gens, parce que ce sont les autorités qui organisent la corruption. Alors, il sera difficile pour cette même CENI-là de ne pas obéir aux injonctions provenant de ces autorités. Alors, s'agissant maintenant des élections de gouverneurs et de sénateurs, il est difficile pour nous, parce que nous avons des propositions, lesquelles très contraignantes pour pallier à cette corruption. Mais il sera difficile parce que le départ est d'abord verrouillé. Raison pour laquelle nous proposerons d'abord à ces élections, donc aux nouveaux députés, de changer d'abord le mode de scrutin des gouverneurs et des sénateurs. Par là, maintenant, nous pouvons maintenant aller chercher une solution par rapport à ce qui est souvent demandé, de lutter contre cette même corruption. Parce que vous allez constater aujourd'hui, mes amis l'ont dit, que la plupart de ces députés-là élus, ils viennent toujours en même temps comme sénateurs. Demain, ils seront nommés des ministres. Non, vous trouvez qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas.
Voilà, on l'a dit par ceux qui vous ont précédé, donc il faut repenser, en tout cas, notre système électoral, notamment pour ce qui est des sénateurs ou encore de gouverneurs et vice-gouverneurs. Merci à Dr. Mika Bolingo, on a pu assez de temps. Il y a encore trois auditeurs qui aimeraient bien intervenir, alors on va se dépêcher pour leur accorder la parole. Obed, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Obed.
Oui, bonjour Monsieur Marcel, bonjour à tous les auditeurs des radios Capi, je salue Marie-Paul.
Voilà, en une minute, Obed, que vous avez à nous dire?
Alors, en une minute, je salue la pertinence des propositions de ceux qui nous ont précédés. Alors, pour essayer juste d'apporter une petite contribution, je pense qu'en suivant très bien, en tout cas, les interventions des uns des autres, aujourd'hui, nous comprenons qu'il est temps, puisqu'il est temps d'ailleurs de retoucher, en tout cas, la Constitution, de passer à la quatrième république, parce que moi je pense que au regard de notre constitution, on n'est pas dans un régime d'hyperprésidentialisme, contrairement à ce que les autres disent, où le président de la République a tous les pouvoirs, et puis je pense que les prérogatives qui sont reconnues par le président de la République, elles sont très bien circonscrites dans la constitution, mais aussi je pense que notre parlement est bicaméral, ça veut dire qu'il est recommandé que nous puissions avoir des chambres, et si on passe aussi qu'en tout cas le Sénat est budgétivore et n'a pas en tout cas la raison d'être, je pense que ce sont des questions aussi qui nécessitent en tout cas la retouche des textes. Alors très rapidement pour parler des élections des gouverneurs et sénateurs, évidemment aujourd'hui le Congo est reconnu parmi les pays les plus corrompus. Je pense que cela doit être une interpellation de tout le monde, parce que moi éventuellement je ne fais plus confiance à toutes ces structures anti-corruption au regard des injonctions qui viennent des gauches à droite. Mais c'est Marcel, permettez-moi de poursuivre.
Non, rapidement, Obed, on n'a plus assez de temps. Je vous avais accordé une minute. Allez-y rapidement avec cette suite. Allez-y.
Oui, c'est Marcel. Je pense qu'aujourd'hui, si la CENI n'est plus impartiale, je ne vois pas la raison. On l'appelle une institution d'appui à la démocratie.
Voilà, merci Obed depuis Kinshasa. Maître Patrick Odia, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour, maître.
Bonjour, et à tous les auditeurs de Radio Capi.
Voilà, maître, vous avez une minute. Essayez de respecter une minute. Allez-y, votre réaction.
En une minute, je dirais que les responsabilités sont partagées entre, d'une part, l'État, Oui. D'autre part, les institutions d'appui à la démocratie, c'est-à-dire notamment la justice et la CENI, ainsi que toutes les agences d'anticorruption qui ont été mises en place, mais aussi entre nous, la population. Toutes les interventions de tout à l'heure, vous avez entendu les gens jeter l'éponge sur le chef de l'État, l'État et consorts. Mais je pense que la responsabilité également n'est pas toujours étatique. Elle est également populaire. Nous devons également à prendre nos responsabilités. En ce qui concerne la mesure proposée par l'agence d'élite contre la corruption, je pense que cette initiative est impopulaire et inopportune. D'autant plus que la corruption ne se passe que qu'entre les corrompus et les corrupteurs. C'est-à-dire entre les candidats sénateurs ou les candidats gouverneurs et les grands électeurs qui sont les députés provinciaux. Ils s'appellent dans des chambres. Comment un citoyen lambda qui souffre pourrait être présent au moment où on parle corruption? Je pense que c'est inopportun. Cette initiative est inopportune du point de vue pratique. Mais pour penser un peu de solutions idoines à long terme, il faudrait penser à la révision de la Constitution pour permettre à ce que les peuples qui commencent à être très matures du point de vue électoral puissent également se choisir comment je peux dire, des dirigeants. Mais je voulais citer par...
Désolé, maître Patrick Audiard, désolé, parce qu'il y a un tout dernier auditeur qu'on va prendre, on va s'arrêter par là. De toutes les façons, on va revenir sur cette question dans nos prochaines émissions. Merci maître Patrick Audiard d'avoir appelé depuis Lubumbashi. Steve Bayoguer, et vous êtes à Bukavu. 30 secondes, Steve. Bonjour à vous d'abord.
Nous lançons à Lubumbashi, lancer des conférences sur la corruption.
C'est Steve qui est en ligne. Apparemment, c'est plus Steve qui est en ligne. Je pense qu'il y a quelques soucis avec la ligne de Steve. Désolé, on ne peut pas continuer avec les auditeurs. On est déjà presque à la fin de cette tranche de magazine Parole aux auditeurs. On va en profiter avec les 2 minutes qui nous restent pour conclure avec notre invité. Merci à tous les auditeurs qui ont réagi sur la page Facebook aux auditeurs également. Ceux qui se sont inscrits pour réagir en direct. Désolé, on n'a plus assez de temps. Vous avez eu beaucoup, beaucoup à parler. Voilà pourquoi on n'a pas pu vous gérer. Voilà. On va finir avec notre invité. Vous pensez qu'il faut toujours faire confiance au système électoral du pays? S'il faut changer des choses, il faut le faire, maître.
Et Marcel, je l'ai dit dès le départ, que nous devons réfléchir après 4 cycles électoraux où nous en sommes. Mais j'aimerais juste vous dire une chose. Nous sommes classés aujourd'hui, en termes de la corruption, 166e pays sur 180. Donc 166e pays le plus corrompu sur 180. Donc on est plus au niveau de ceux qui sont les mauvais exemples. Donc on doit se battre ensemble pour que nous puissions gagner des points et avancer pour lutter contre la corruption. Je ne suis pas d'accord lorsqu'on dit que les agences ne servent à rien. Il faut commencer quelque part. Le chef de l'État a pris l'initiative. Il faut commencer quelque part et ça va venir, ça va un jour porter le fruit. Donc mettons-nous ensemble, comme j'ai dit, tenons les mains pour que nous puissions combattre la corruption avec une justice saine et aussi chacun a sa conscience. Vous savez, les choix que nous portons aujourd'hui, ce sont des bons choix, pourront nous aider dans le futur. Ce sont des mauvais choix, il y aura des conséquences. Même pour les députés provinciaux qui sont des grands électeurs, ils doivent savoir que s'ils ne font pas de bons choix, ni pour les sénateurs, ni pour les gouverneurs, ils vont apporter des conséquences. Mais une chose que j'aimerais dire, si nous aimons le Congo, faisons tout pour que le Congo aille de l'avant. C'est ça, ce que je peux donner. Soyons patriotes et aimons
notre pays. Nous n'avons pas d'autre choix que d'aimer le Congo, c'est notre patrimoine.
On doit aimer notre pays, voilà. Et battons-nous pour que ce pays s'améliore tous ensemble. Nous allons voir qu'il y a moyen d'avoir des jours meilleurs et glorieux.
Merci beaucoup à vous, Maître Dieudonné Tshibomba. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Bruxelles en Belgique, Kinshasa et Kananarive, DC, président de la Fédération de la diaspora congolaise de la Belgique. Merci d'avoir été des nôtres.
C'est moi qui vous remercie.
Fin de ce numéro des Paroles Auditeurs de Séjour. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi. Merci à Polydor Basunga qui a remplacé Paul Banyama à la mise en œuvre de ce magazine réalisé et coordonné par Blaise Chindano. Micro, c'était Marcel Ngomombala. À très bientôt.